Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique et à la réalisation, mon complice Grégor et votre serviteur Andrés Atenza, toujours en direct du studio Gisèle Halimi. Mes invités viennent d'aujourd'hui de Mende, département de la Lozère. J'ai le plaisir d'accueillir son directeur de l'UDAF, M. Dominique Prévost.
Bonjour.
Et sa responsable de la communication, Mme Léa Jarretoux.
Bonjour.
Soyez les bienvenus en Occitanie.
Merci beaucoup. Merci à Radio Esprit Occitanie et merci à vous-même de nous accueillir.
Alors, l'UDAF, c'est une vieille institution, M. Prévost. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ça s'est organisé, ça s'est créé, les UDAF, parce qu'il me semble qu'il y a des UDAF dans tous les départements, vous êtes organisé en région et ensuite au niveau national. Mais commençons par le début, naissance de l'UDAF.
1945, au sortir
vieille,
de la guerre.
Vieille institution.
Mais oui, au sortir de la guerre, un certain nombre d'institutions sont créées pour aider et protéger notamment les familles. Et c'est le cas des UDAF et de l'UNAF.
Donc, alors l'UDAF, c'est donc national.
UNAF, c'est national. Donc UDAF, Union départementale des associations familiales. UNAF, Union nationale des associations familiales.
Mais vous avez également une instance régionale.
Depuis que les régions existent, il existe une institution, une représentation, une union régionale, les URAF, et donc ici l'URAF Occitanie à laquelle nous appartenons.
Donc pour l'Occitanie, c'est 13 UDAF.
Absolument, 13 UDAF constituent l'Occitanie.
J'imagine que vous travaillez ensemble entre le Tarn, les Hautes-Pyrénées, la Lozère, l'Aveyron.
Absolument, c'est l'une des très grandes richesses de ce mouvement et de cette URAF, c'est que nous puissions nous rencontrer, travailler ensemble sur des thématiques, porter des projets ensemble qu'on ne pourrait pas porter tout seul, échanger des savoir-faire, se poser des questions entre nous et toi, comment tu ferais ça? Et c'est d'un enrichissement de chaque UDAF à chaque moment.
Création à la sortie de la guerre. Alors, les membres fondateurs, quelles sont les personnes qui se sont investies et qui ont créé? C'est quoi? C'est les résistants? Ce sont ceux qui ont participé à la libération?
Mais très certainement, en tout cas, c'est ceux qui ont travaillé à la création et à la rédaction du Code de l'action sociale et des familles. Puisque c'est dans le Code de l'action sociale et des familles que sont nommés et présentés les UDAF, l'UNAF et leur mission.
Et donc, aujourd'hui, vous représentez les associations familiales sur un département pour défendre les intérêts. C'est ça, la vraie question.
C'est absolument ça. C'est-à-dire que la mission première des UDAF, c'est de défendre et de représenter les familles, porter leurs besoins, s'assurer que leurs intérêts sont bien portés, défendus et reconnus dans le cadre de réunions qui se passent au niveau départemental, dans le cadre de la préfecture, du conseil départemental, de l'ARS, des hôpitaux, de l'éducation nationale, etc., etc. Et les administrateurs de l'UDAF de la Lozère assurent une centaine de représentations par an dans des réunions
sur un département.
Sur le département de la Lozère, pour défendre l'intérêt des familles et porter leur parole.
Individuellement, je pourrais adhérer à l'UDAF, c'est possible ou il faut que je sois dans une association?
Alors, nous sommes une union départementale d'associations familiales, vous n'êtes pas une association, à vous tout seul.
Donc individuellement, je ne pourrais pas y adhérer.
Non, mais par contre, vous allez adhérer à une association qui adhère à l'UDAF.
D'accord.
Et à ce moment-là, vous pouvez devenir administrateur.
Non. Donc, le statut, c'est l'OM 901, une association.
Absolument, voilà, tout à fait.
Et y compris au niveau national, pour représenter quasiment comme une fédération.
C'est une union d'association. C'est-à-dire que chacun mène sa vie dans un cadre déterminé.
Comment est financé ou comment sont financés les UDAF? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une UDAF dans chaque département de la République.
Il y a pratiquement une UDAF dans chaque département de la République. S'il n'y en a pas, elles vont se créer. Les financements des UDAF varient en fonction de leurs activités. Il y a un financement commun qui sort de nos missions, qui est dans le Code de l'action sociale et des familles. On a cette mission de représenter les familles, et pour cela, nous bénéficions d'un financement national pour assurer cette mission-là. Donc c'est l'État, à travers la Caisse nationale d'allocation familiale, qui octroie à l'UNAF un certain montant pour que nous réalisions un certain nombre de missions. Et l'UNAF redistribue ce montant aux UDAF. Donc ça, c'est une première, un premier financement.
Et pour réaliser toutes ces missions, avec le financement de l'État, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi les conseils départementaux.
Il y a les conseils départementaux, la
peut-être
MSA.
Peut-être l'ARS.
Parfois l'ARS. Les DDOTSPP, c'est-à-dire c'est aussi l'État, hein, c'est la préfecture.
C'est la préfecture qui finance.
Chez nous, la CCSS, parce que nous avons une caisse commune de sécurité sociale, mais c'est la CAF notamment qui nous finance.
Qui finance ça. Pour réaliser ces actions, vous avez donc recruté des professionnels. Alors, sur la Lozère, votre association UDAF de la Lozère, c'est combien de salariés et un budget de combien? Si c'est pas trop indiscret.
C'est 30 salariés pour un budget d'1,5 million environ.
Alors, les actions que vous menez, est-ce qu'on peut les lister rapidement et on va essayer de s'arrêter sur quelques-unes, parce que je sais que vous faites du tourisme social, vous vous occupez des tutelles et curatelles, etc. Alors, démarrons sur l'ensemble des activités que vous avez.
Très bien. Bah écoutez, donc la première, j'insiste, c'est cette défense des intérêts des familles.
C'est le cœur du métier. Quoi.
Absolument, sont des missions
assurées. Dans le fondamental de l'UDAF, on ne peut pas oublier ça.
Voilà, c'est la raison d'être.
Votre raison d'être.
Absolument, vous l'avez bien compris. Et ce sont les administrateurs qui assument cette mission-là.
Avec un soutien des techniciens, pour
avec un
dire.
Soutien des techniciens et éventuellement...
Des professionnels. J'imagine que vous, en tant que directeur, vous êtes là aussi pour éclairer vos administrateurs, votre président.
C'est l'une de mes missions, effectivement, voilà. Avec mon équipe, mon comité de direction.
D'accord.
Donc, les administrateurs de l'UDAF ont créé un certain nombre de services au fil du temps, hein, bientôt 80 ans. Donc, les services se sont créés au fur et à mesure. Pour les services aux familles, nous avons un accompagnement budgétaire. Dans le cadre vous savez qu'on adore les sigles dans le social et médico-social,
mais pour
nous avons un PCB.
Alors dites-nous ce que c'est en toutes lettres. On va décortiquer pour
c'est
nos auditeurs, Esprit Occitanie.
Point conseil budget.
D'accord.
Qui a un financement d'État qui nous permet d'accueillir les familles en difficulté financière. Elles ne peuvent pas finir leur fin de mois, elles sont un petit peu endettées, ou beaucoup. Elles ont des difficultés d'ordre financier pour payer leur fournisseur d'énergie, etc.
Et à ce moment-là... Il y a des familles pauvres, vous occupez beaucoup de la pauvreté.
De la pauvreté ou des personnes, vous savez, on dit un accident de la vie. Oui. Vous vous retrouvez dans le cadre d'un divorce, c'est toujours
tout
compliqué.
Va bien, et puis il se passe
dans le cadre
chose.
D'une maladie grave, dans le cas, etc., dans le cas d'un décès. Voilà,
facilement basculer. Quoi.
Dans les vieilles familles de Lozère, monsieur s'occupait du compte en banque et quand monsieur décède, madame est dépourvue. Et donc elle vient chez nous et on va lui apporter une éducation financière. On va leur expliquer, donc cette personne ou d'autres.
Là, vous restaurez du droit, vous réhabilitez, pourrait-on dire.
Absolument, vous avez dit le mot-clé, on restaure du droit et on restaure aussi un accompagnement, un suivi, un savoir. Et on fait de l'accompagnement sur le long terme. C'est-à-dire que la personne vient avec ses questions, on la reçoit une première fois, une deuxième fois, elle nous apporte ses documents, on la renseigne, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble, qu'est-ce que vous voulez gagner comme autonomie, etc. Et on va pouvoir la renseigner, l'aider et l'accompagner. Et on a deux outils complémentaires à ce point conseil budget pour accompagner les familles. On a la possibilité de déposer des dossiers de surendettement. Alors ça s'appelle rétablissement personnel dans le jargon.
Dans le jargon professionnel.
Voilà, rétablissement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les dettes sont tellement importantes qu'on ne peut pas remettre à flot le couple, la famille, la personne, et on dépose un dossier à la Banque de France qui va décider ou non d'effacer la dette. Ça, c'est une première chose. Mais il ne faut pas en abuser. Hein, et puis, c'est très, très contrôlé.
Et on ne efface pas les dettes comme ça.
C'est jamais automatique.
C'est pas automatique.
C'est jamais automatique. Hein, c'est avec la garantie que ça ne se reproduira pas. Hein. Mm-hmm. C'est pas on vient, on fait des dettes et puis on a la dette effacée, je recommence demain. Hein. Et la deuxième chose, c'est le microcrédit personnel.
Alors, le microcrédit, il y a eu beaucoup d'études, c'est documenté par des économistes. Je crois qu'il y a même eu un prix Nobel d'économie en Inde, Amartya Sen, qui a beaucoup abordé cette question du microcrédit. Et puis, il y avait quand même la banquière des pauvres dans le microcrédit, dans notre pays. Alors, dites-nous ce que vous faites concrètement pour le microcrédit.
Il y a deux microcrédits institués en France. Le premier, c'est un microcrédit professionnel. C'est celui, par exemple, qui s'est développé en Inde. En Inde, ce sont les femmes qui développent des boutiques, etc. Et c'est elles qui font du microcrédit. Chez nous, il y a donc le microcrédit professionnel et le microcrédit personnel. Le microcrédit personnel est fléché. Vous ne pouvez pas demander un microcrédit pour n'importe quoi. En Lozère, 85 à 90% des microcrédits sont utilisés pour de l'insertion professionnelle et de la mobilité.
Alors, l'insertion professionnelle, ça veut dire que je crée ma petite activité, c'est ça ?
Alors, je crée ma petite activité, oui. Microcrédit professionnel, c'est pas nous.
D'accord.
Mais microcrédit personnel, je suis embauché sur Radio Esprit Occitanie, je ne peux pas venir parce que ma voiture est en panne, je dois me déplacer, je ne peux plus m'insérer professionnellement si je n'ai pas ce crédit, la banque me le refuse, pour des raisons qui lui appartiennent, X, Y, Z. Les personnes peuvent alors venir nous rencontrer. On étudie leur dossier. Il faut évidemment que ce soit des microcrédits qu'ils puissent rembourser. C'est pour des petites sommes, jusqu'à 8 000 euros.
Voilà. On ne met pas les gens en difficulté, quoi.
Non, du tout. Et nous assurons un accompagnement de ces personnes-là sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va tenter de s'assurer le plus possible qu'elles vont bien rembourser leurs prêts. Et ce microcrédit, c'est donc une création d'État, en France en tout cas, et il est garanti pour les organismes prêteurs à hauteur de 50% par l'État.
D'accord. Donc là, pour les banquiers partenaires, c'est tout à fait convenable, quoi. On peut prendre les banquiers qui n'aiment pas parfois prendre trop de risques, là, ils peuvent prendre un risque à hauteur de 50%.
On pourrait le penser, et pourtant, nombreux restent frileux.
D'accord. Il reste quand même frileux.
Sur ce microcrédit.
Alors, une personne pour l'insertion professionnelle, c'est souvent l'achat d'une voiture d'occasion, seconde main, ou une mobilette,
une
moto,
réparation,
ou quelque chose pour pouvoir se déplacer, s'insérer. Quand on est dans la ruralité, il est évident que la mobilité, c'est quelque chose. Mais même en ville, on voit bien que si on n'est pas mobile, c'est très difficile de pouvoir assurer une profession, quoi.
Absolument. Alors, en hyper-ruralité, hein, rappelons que ce magnifique département de la Lozère est le moins peuplé de France.
Alors, rappelle-nous là, un peu de géographie, est-ce que vous avez ça en tête ?
75 000 habitants 75 000 en Lozère. C'est-à-dire qu'on est capable de remplir le Stade de France et laisser de la place pour l'équipe adverse.
Voilà. Donc, vous voyez bien. Là.
Ils perdraient le match, mais, hein, bien entendu. Mais...
Très belle association de l'UDAF, il faut le dire. Alors, d'autres activités, soutien à la parentalité, vous faites également ?
Absolument.
Alors, vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qui font aussi. Donc, il y a peut-être... Oui, Madame Jarretou, la chargée de communication.
Nous, dans le cadre de la convention d'objectifs qui a été signée avec l'UNAF, on met en place des ateliers parentalité. D'accord. Donc, le but, c'est d'accompagner les parents sur une problématique ou une thématique précise, sur plusieurs ateliers, et à la fin, de les inciter à créer des groupes de parents indépendants, en fait, qui n'ont pas besoin d'une institution pour se retrouver et pour
et
aborder
des... dans ces ateliers.
C'est la première année. Moi, c'est la première année que je suis sur le sujet, mais là, les premiers sont prévus en novembre et on espère...
Alors, comment vous faites pour aller chercher ces parents, pour qu'ils viennent participer à vos ateliers ? D'ailleurs, c'est des annonces dans la radio, c'est des annonces dans la presse locale.
Pas forcément à la radio, pas dans la presse locale non plus. On a remarqué que ce qui fonctionnait quand même bien, c'était les réseaux sociaux.
D'accord.
Et faire passer l'information par les partenaires qui relaient eux-mêmes auprès de leurs partenaires. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, et surtout en Lozère.
Donc, ça veut dire que vous avez un réseau dense d'associations, des amis de l'UDAF, pourrait-on dire comme ça, qui peuvent relayer l'information pour qu'il y ait une
Il y a beaucoup de partenariats locaux sur le département. C'est ce qui fonctionne le mieux, je pense.
D'accord. Et parentalité, les gens viennent, ils viennent quoi, en couple, tout seul, alors, des difficultés par exemple avec un enfant, difficultés...
C'est pas forcément des difficultés, handicap, ça peut être sur une thématique particulière. Là, cette année, on a choisi la thématique des émotions, l'accompagnement des émotions en famille, donc c'est pas vraiment une problématique, ça peut être vu du côté positif aussi. Et on s'attend à ce que ce soit des familles d'enfants petits ou d'enfants grands, d'adolescents qui participent.
Autre activité importante, voyage senior. Donc là, c'est du tourisme social. Là.
C'est du tourisme social.
Et vous l'organisez pour les, pourrait-on dire, les plus indigents, les plus précaires. Ils ont aussi le droit de partir un peu en vacances, quoi.
C'est absolument ça. C'est-à-dire
alors
que...
vous êtes allé où là? Les destinations prévues, comment vous organisez ça?
On est allé du côté de Bordeaux l'année dernière et cette année, la commission voyage de l'UDAF pense aller du côté des Alpes.
D'accord.
Voilà, l'idée, vous l'avez dit, hein, c'est de permettre aux personnes seniors, hein, donc plus de 60 ans, j'en fais partie, mon Dieu, au secours, plus de 60 ans, de partir en vacances, notamment s'ils ont des revenus bas, qui ne leur permettent pas de partir, voire qui ne sont jamais partis.
Partis en vacances.
Des primo-partants.
C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont peut-être travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas quitté le département.
Absolument, quoi. Absolument. Soit pas à cause de leur métier, soit pas par pauvreté.
Simplement pauvreté.
Voilà, ou parce que ça se fait. Enfin, dans certaines familles, on ne part pas en vacances. D'accord. Et donc voilà, c'est donner l'occasion. Vous savez, lorsque vous accompagnez une personne au bord de mer et qu'elle n'a jamais vu la mer et que c'est une personne qui a entre 65 et 75 ans...
J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'émotions.
Il y a une belle émotion quand même pour elle, mais aussi pour les accompagnants, pour nos administrateurs qui accompagnent le voyage. Je tiens à dire que ce voyage est aidé par l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances, qui aide beaucoup
qui
au départ
soutient,
en
quoi,
vacances qui et qui nous aide, nous aussi. Et ces aides nous permettent de faire des prix aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, des prix intéressants.
Et donc vous faites un, deux ou trois voyages par an?
Alors, pour l'instant, on n'en fait qu'un.
Vous faites un, voilà. Pour combien de personnes? Quand vous sortez, c'est vous remplissez un bus pour
absolument. Le bus est rempli.
C'est 50 personnes, quoi, entre 50 et 60
c'est
personnes.
C'est 60, oui. 60 personnes.
Ouais, 60 personnes. Et les retours sont, j'imagine, les retours intéressants,
les retours.
Des images, des émotions, des photos.
Absolument. On demande aux participants de nous envoyer leurs photos, voire nous envoyer les petits textes. Et nous faisons un petit compte-rendu chaque année qui est envoyé aux participants du voyage.
Madame Jaroutou, vous mettez des photos sur le site
internet.
Oui,
il y a le compte-rendu.
Vous faites un compte-rendu et tout le monde peut aller chercher.
Tout est en ligne et vous pouvez aller voir sur notre site.
Je précise qu'il suffit d'aller sur votre site et il y a beaucoup d'informations. C'est mis à jour. Toutes les informations. Monsieur le directeur, votre chargé de communication fait le job.
Elle est merveilleuse, je partage ce sentiment avec vous. Elle a remis à jour le site udaf48.fr. Elle anime trois réseaux sociaux, LinkedIn, X, anciennement Twitter, et Facebook. Et voilà, je pense que les retours que nous avons des directions et des présidences des autres UDAF de l'URAF Occitanie sont élogieux sur notre travail de communication et donc on compte bien continuer sur ce chemin.
Alors vous avez une gouvernance, donc un président, une présidente.
Nous avons un président, Monsieur Michel Caponi.
C'était quoi son métier? Parce que c'est un bénévole.
C'est un bénévole et il travaillait dans le domaine bancaire. Il faisait des placements bancaires.
Il y a un conseil d'administration.
Sur le département.
Un conseil d'administration, une gouvernance de combien de personnes?
18 personnes.
18 personnes.
Cette année, oui.
Vous les réunissez une fois par trimestre?
C'est 4 fois par an.
Voilà, donc en
conseil d'administration
qui délibère.
Exactement.
Et vous avez un bureau, donc très classique.
On a un bureau, une assemblée générale
une assemblée
qui délibère,
générale,
bien entendu.
Qui travaille et qui présente les rapports. Tout cela est public, bien entendu, sur le site, le site internet.
Et ces 18 administrateurs sont issus des 25 associations familiales que nous regroupons au sein de l'UDAF.
Donc, sur la Lozère, vous avez donc 25 associations qui adhèrent à l'Union des
Absolument,
familles.
Absolument. Et ça représente environ 2000 familles.
Alors, pas uniquement sur Mende. Et quand on dit la Lozère, vous faites le travail pour que l'ensemble du territoire du département soit dignement représenté.
Tout à fait. Et d'ailleurs, merci de me donner cette opportunité de dire que, par exemple, le PCB dont nous avons parlé, nous ne le faisons pas dans nos bureaux à Mende, tout seul dans notre coin.
D'accord.
Nous nous déplaçons dans les maisons France Service, partout en Lozère, de manière à pouvoir rencontrer les personnes qui ont besoin de nos conseils.
Eh bien, écoutez, avant d'aller plus loin et puis changer de sujet, parce que vous avez eu la charge d'organiser deux colloques. Un premier colloque en Narbonne sur éthique ensemble, on va y revenir. Et puis le prochain colloque à Toulouse, au conseil départemental de la Haute-Garonne, qui très gentiment vous prête le pavillon République, paraît-il. On reviendra sur ce colloque éthique ensemble, mais avant, je vous propose un duo, Françoise Hardy et Alain Bachoum. Que reste-t-il de nos amours ?
Qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois,
les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre. Se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela?
but de moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours au studio Gisèle Halimi avec Dominique Prévost, le directeur de l'UDAF de la Lozère, et sa responsable de la communication, Madame Léa Jarretoux. Vous m'avez dit soutien à la parentalité, des mesures d'aide à la gestion du budget familial, la défense des instances représentatives des usagers, pourrait-on dire, des familles, un service tutélaire, un microcrédit, des voyages seniors, dont tourisme social et un autre service.
Oui, un mot du relais petite enfance.
Alors, relais petite enfance, donc vous vous occupez des tout-petits.
Nous nous occupons des tout-petits, mais pas que. Le relais petite enfance, ce sont des missions qui sont confiées par les CAF,
de manière... La caisse d'allocation familiale.
Absolument, voilà. Je vous remercie. Qui permet d'accompagner et d'aider, de soutenir les assistantes maternelles. Mais pas seulement les assistantes maternelles. Les parents à la recherche d'un mode de garde. Et donc, en Lozère, nous avons la très grande particularité, parce que c'est un département exceptionnel, nous avons la très grande particularité d'animer, nous, UDAF de la Lozère, un relais petite enfance départemental et itinérant. C'est-à-dire que nos éducatrices jeunes enfants vont parcourir la Lozère pour rencontrer les assistantes maternelles, pour rencontrer les parents, pour rencontrer les partenaires et mettre en place des réunions, des ateliers d'éveil, des moments d'information.
D'accord. Et donc là, vous ratissez tout le département, c'est quand même pas une mince affaire, parce qu'il y a aussi la géographie, on a de très beaux départements, il faut au demeurant. Voilà. Mais quand même, il faut traverser, ça monte, ça descend, il y a des vallées, de très belles vallées. Travailler dans des conditions comme ça, il y a beaucoup de transports, les professionnels qui partent sur la route.
C'est l'une des particularités du territoire, vous avez entièrement raison. C'est que un aller-retour peut prendre jusqu'à une heure et demie aller et donc 3 heures aller-retour. Voilà. Le temps de s'installer, vous avez une journée bien chargée.
Une journée bien chargée pour les professionnels.
Mais nous y allons et nous rechignons pas à nous déplacer. Le monde est à peu près situé au milieu du territoire et on se déplace sur
la totalité du territoire. On peut rayonner. Alors revenons au colloque que vous avez initié, parce que vous êtes à la manœuvre, deux colloques sur éthique, ensemble. D'abord le titre, éthique au pluriel ensemble, il faudra nous éclairer, Monsieur Prévost, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Premier colloque... au mois d'octobre.
Le 1er octobre à Narbonne.
C'est ça. Plus de 200 personnes dans la salle.
Plus de 200 personnes, oui.
Tout le monde était content. On nous a dit que dans les réseaux sociaux...
On a eu de très bons retours.
Congratulations, on devrait dire. Oui. Hein, voilà. Il y a eu également... C'était filmé.
Filmé, retranscrit en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà. On a fait plus de 200 vues. Donc, ça fait le double de participants en colloque. C'est très bien.
Un professeur de droit qui a fait grande impression. Un professeur qui venait de l'université de Caen, c'est ça?
Absolument.
Vous pouvez nous décrire, monsieur Prévost, le colloque, le premier colloque d'octobre, un peu les participants.
Tout à fait.
En tout cas, les contributeurs, pourrait-on dire.
Alors, ce sont deux colloques qui sont organisés par l'URAF.
Et l'URAF. La région.
La région, absolument, qui s'est vu confier des fonds de la DRETS, donc des fonds du préfet de région, pour animer ces colloques-là. L'URAF a désigné volontaire, mais sans grande violence, l'UDAF de la Lozère pour réaliser ces colloques. Nous étions tout à fait volontaires pour le faire.
J'imagine qu'il y avait peut-être une expertise particulière.
Le premier colloque, le 1er octobre à Narbonne, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de l'UDAF de la Lozère, il y est intégralement.
Alors, Madame Jaroutou, vous pouvez nous dire, on peut aller voir ça sur votre chaîne YouTube en allant sur votre site ?
En allant sur notre site ou en allant sur YouTube.
Site, vous nous rappelez l'adresse alors,
UDAF48.fr.
Voilà.
Et sinon, la chaîne YouTube, c'est UDAF de la Lozère.
Point.
Point.
Et là, vous trouvez, vos émissions.
C'est ça.
Et tout ce que vous pouvez présenter. Merci beaucoup. Alors, ce colloque, Monsieur Prévost.
Donc oui, nous avons pour chacun des colloques un invité d'honneur et un animateur. En l'occurrence, c'était une animatrice, pardon. L'invité d'honneur était Monsieur Gilles-Raoul Cormeil, qui...
Professeur de droit.
Professeur de droit, très, très versé sur tout ce qui est éthique et droit des personnes protégées. Puisque là, on va parler donc de la partie tutelle et curatelle en termes...
Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même pour nos auditeurs qu'en France, des personnes dites majeures protégées, c'est à peu près 750 000 personnes, c'est ça ?
C'est à peu près 750 000 personnes.
Ça a approché à peu près 800 000, ça a baissé un peu.
Donc la définition d'une personne protégée, c'est lorsque, suite à une expertise qui a été faite, le juge des tutelles, alors ce n'est pas son nom complet, mais on va le simplifier ainsi, le juge des tutelles va estimer que la personne risque de nuire à ses propres intérêts, que ce soit dans ses choix de vie, que ce soit pour sa santé, que ce soit pour toute question, tout choix qu'elle va faire. Et à ce moment-là, le juge va mettre cette personne sous protection d'un mandataire, et désigner une personne pour accompagner la personne protégée. Dans la moitié des cas, ce sont des familles.
Ce sont souvent des familles.
Qui sont désignées, puisque vous pouvez être le mandataire de votre papa, votre maman, votre frère,
votre
fils.
Alors, question, est-ce que dans le cas où c'est la famille qui gère les intérêts de la personne protégée, est-ce que l'UDAF intervient pour aider ses aidants ou pas ?
Mais absolument. Ça s'appelle l'ISTF, je vous ai dit, on aime bien les sigles. Information et soutien aux tuteurs familiaux. C'est un service que nous animons depuis de nombreuses années. Ce sont des professionnels mandataires chez nous qui accueillent les familles et les renseignent. Parce que rien ne prédispose, vous ou moi, à avoir la compétence pour être mandataire d'un proche. Qu'est-ce qu'il faut demander au juge, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe avec les banques, etc.
Il faut rappeler que le métier de délégué ou tutelle est un diplôme à Bac+3, c'est une licence reconnue, il faut une expertise quand même.
Tout à fait.
Véritable expertise. Quoi.
Absolument.
Bien entendu, en tant que accompagnant ou familial, on peut s'intéresser à cette affaire, mais quand même, il faut avoir un certain nombre de connaissances.
Voilà, absolument. Et on est là pour aider les familles.
D'accord. Et donc, le colloque ce professeur de droit, très versé sur le droit. Parce que j'étais présent à ce colloque.
Mais
et j'ai entendu quand même il faisait beaucoup référence toujours au droit. Alors que la question éthique, c'est résoudre les dilemmes, résoudre les tensions. Peut-être peut-on polémiquer un peu. Est-ce qu'il avait raison, ce professeur de droit, de tout ramener toujours au droit ? Là, je m'adresse au directeur.
Alors, l'éthique, c'est
surtout vous dites
ni le droit.
Éthique ensemble, éthique au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éthiques.
Je vais y venir, absolument.
Ah, vous allez y venir.
L'éthique, ce n'est pas le droit. L'éthique, ce n'est pas la déontologie. L'éthique, ce n'est pas les règles. L'éthique, ce n'est pas le sens commun. C'est à la fois tout ça et tout à fait autre chose. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas la réponse à une question qui se pose à vous, à une situation que vous souhaitez résoudre, vous vous tournez vers ces règles-là, qui sont vos règles professionnelles ou vos règles sociétales ou la loi. Et je vous donne un exemple, si vous me permettez.
Oui, je vous en prie.
Une personne accompagnée par l'UDAF de la Lozère souhaite acheter une voiture. Ben oui, pourquoi pas ? Elle a l'argent pour cela, elle dispose de son argent, on peut lui acheter une voiture. Sauf que c'est la troisième voiture en un an, et sauf qu'on sait que monsieur est alcoolisé. Voilà. Que faisons-nous ? On le laisse circuler dans une voiture, un instrument mortel pour lui-même et pour les enfants qui traversent la route ? ou on décide que bah non, ça suffit. Voilà.
Alors, que dit le droit d'abord ?
Le droit est simple. Le droit dit monsieur a le droit.
Il peut faire ce qu'il veut avec son argent.
Mais absolument.
Mais vous avez un devoir.
L'être humain que vous êtes.
Voilà. Mais vous avez un devoir, c'est également le droit de le protéger.
On a aussi le devoir de le protéger. Et qu'est-ce qu'on se dit qu'on ferait pour sa famille ? Eh bien oui, mais là, ça change. On n'a plus les mêmes repères. Est-ce que moi, je vais être tranquille d'avoir signé l'autorisation en tant que directeur d'achat d'une voiture et de lire dans le journal 3 semaines après qu'un gamin a été renversé et qu'il est hospitalisé ? C'est un dilemme éthique.
Oui, mais la question de l'autodétermination... Alors, on a l'impression parfois que cette question, c'est pour se protéger. On ouvre le parapluie, vous le dites, Monsieur Prévost, allez, je voudrais pas voir dans la presse locale, en signant le bon de commande pour la voiture, ce monsieur ou cette dame qui renverse encore une fois une personne. Donc on a l'impression qu'on fait ça pour se couvrir. Bien protéger l'autre. C'est ça l'intention première.
Mais oui,
l'intention première.
Bien sûr qu'en tant que professionnel, je me sens impliqué, vous avez raison. Mm-hmm. Mais le but, c'est pas de me protéger moi.
D'accord.
Le but, c'est de le protéger lui contre les actes qu'il va pouvoir faire éventuellement et la famille qui va être touchée par éventuellement cet accident.
D'accord.
Et là, on a le droit de se poser la question. On a le droit, alors je vous le dis, hein, on a demandé avis au juge, et la juge nous a dit le droit. Le juge nous a dit le droit. Il nous a dit, monsieur dispose de son argent, il a une 3e voiture.
D'accord. Et là, ça pose des problèmes.
Ça n'empêche pas d'y réfléchir.
C'est un dilemme.
Tout à fait.
Il fallait discuter, ou en tout cas avec la personne, obtenir son consentement et peut-être le ramener à la raison. C'est le travail que font vos professionnels. Quand l'UDAF, l'URAF, donc au niveau régional, vous lancez ces deux colloques d'excellente qualité avec l'ensemble des contributeurs, et vous dites éthique ensemble, est-ce que c'est une préoccupation davantage de la gouvernance ou est-ce que c'est une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des professionnels ? Ou vous vous adressez à qui ?
C'est une préoccupation des professionnels au quotidien.
Au quotidien.
C'est-à-dire là, je vous ai donné un exemple, mais ils en ont pléthore. Comment résolvent-ils ces problèmes-là ? Ils ont, dans les associations en tout cas, ils ont une chef de service. Ils ont des collègues. Ils ont des réunions de service. Et donc, ils ont un directeur. Et donc, c'est autant d'occasions d'aller discuter, échanger et d'avoir des points de vue différents. C'est très important. On disait tout à l'heure, je n'ai pas fini mon descriptif. Oui, la moitié des mesures de protection sont décidées en faveur des familles, mais la grande partie est aussi, la grande partie de ce qui reste, c'est les associations tutélaires qui sont nommées. Et il y a des mandataires aussi individuels.
Donc les professionnels,
mais
oui.
Les professionnels qui sont en association ont cette très grande chance d'avoir divers points de vue. Il y a des conseillères en économie sociale et familiale, des juristes, des assistantes sociales. Il y a différents métiers qui vont permettre de croiser les points de vue. Et ça, c'est une source de partage et d'assurance de bien faire son métier et de pas être tout seul dans son coin à décider de tout.
Ils ont dit quoi, les professionnels, Madame Gertoux, qui ont participé au colloque du mois d'octobre dans le verbatim, quand ils parlaient entre eux au moment de la pause, ils disaient quoi de ce colloque, de ces réflexions ? Ils s'y retrouvaient ?
Ils se sont retrouvés dans tout ce qui a été dit et sans forcément trouver de réponse aux problématiques qu'ils rencontrent, mais en tout cas, ils se sont retrouvés.
En tout cas, il y a eu des situations, une sorte
de
cas, de situations.
Mais je pense que les situations, elles sont communes à tout mandataire judiciaire. Les questions, il y a des questions qui sont récurrentes.
Qui reviennent sans cesse,
oui.
Et chaque fois pointer parfois soit le manque de droit, et là monsieur le grand témoin avait dit parfois le droit ne dit pas tout quoi.
Tout à fait, tout
voilà.
À fait.
C'est ça, quoi.
Et c'est ça l'avantage d'avoir un grand témoin comme on l'a fait cet invité d'honneur. D'ailleurs l'invité d'honneur à Toulouse, c'est Madame Anne Caron d'Église, qui est avocate générale à la Cour de cassation et qui est une grande défenseresse, je ne sais pas si on le dit, des personnes protégées.
Elle va avoir une sorte de focale sur l'usager.
Absolument. Et c'est quelqu'un d'un grand humanisme qui va nous permettre de cheminer avec elle et avec sa pensée tout au long de la journée du 14 novembre.
Quand je vous dis le regard sur l'usager, parce que vous le savez bien, monsieur le directeur, souvent la France, dans les instances dites internationales, a été condamnée parce que notre système de tutelle et curatelle pouvait être parfois liberticide, quoi. On l'a souvent dit, quoi. Ou qui était un système assez dur, quand même.
Oui,
Assez original, pourrait-on dire, comme
les,
ça,
les Nations
en prenant
Unies,
toutes les précautions oratoires.
Les Nations Unies ont une version de la protection des personnes beaucoup moins restrictive que nous l'avons. Ce sont des travaux que nous menons dans le cadre de l'URAF Occitanie. Hein, c'est l'UDAF de Montauban qui est très leader sur ces réflexions-là. Et ce sont des réflexions que nous avons au niveau de l'URAF Occitanie. Comment faire évoluer les mesures de protection de manière à accompagner mieux encore la personne vers son autonomie et sa...
Il y a une loi qui vient, pourrait-on dire, dans le secteur de tutelle, curatelle, protection des majeurs. Il y a une loi majeure. Vous pouvez nous rappeler...
Vous faites référence à la loi de 2002, peut-être,
ben oui.
Qui vraiment met la personne au centre de tous les dispositifs. Hein, ce qui peut sembler une évidence, mais qui a été un travail nécessaire pour peut-être désinstitutionnaliser un peu tous les accompagnements qui étaient faits des personnes vulnérables.
Alors, par exemple, pour votre service de tutelle curatelle, la loi de 2002 dit qu'il faut un conseil de la vie sociale.
Absolument.
Est-ce qu'au sein de votre association, UDAF de la Lozère, avec le service tutélaire, vous organisez une fois tous les 6 mois, une fois par an, vous allez recueillir la parole des personnes protégées au sein de cette instance qui est le Conseil de la vie sociale ou pas, ou est-ce que vous organisez autre chose ?
Alors, oui, il y a eu un Conseil de la vie sociale qui réunissait les majeurs protégés qui souhaitaient venir. C'est un peu compliqué. Parce que nous ne sommes pas très nombreux en Lozère et c'est quand même très stigmatisant pour les personnes. En tout cas, c'est ce qu'elles nous retournent. Il y a eu un stop qui a été mis avec, évidemment, la Covid et nous avons remplacé jusqu'à ce jour les rencontres par des questionnaires. On obtient...
Sur ton questionnaire qualité, retour, c'est ça ?
Voilà,
évaluation.
Un questionnaire qui est à la fois en langage usuel et accompagné de pictogrammes pour accompagner les personnes qui ont de la difficulté avec la lecture. On a un taux de retour de 70%, ce qui nous donne une bonne image de leur appréciation, ou pas, du service qu'ils leur aient rendu.
Vous avez fait témoigner également au colloque de Narbonne des personnes accompagnées, elles ont dit quoi, ce qui était le plus saillant ? Avez-vous souvenance, madame la responsable, madame Jarretou ?
C'est des personnes qui étaient accompagnées par l'UDAF de Lod.
D'accord, c'est ça.
J'ai pas assez d'informations pour répondre à cette question.
Mais moi, je me souviens. Donc, c'est pas une question piège, hein, monsieur le directeur. Il y a une des dames qui était accompagnée qui disait « On a des problèmes de standard. » Quand on téléphone, on a des problèmes de standard. Et on aimerait avoir quelqu'un et on n'a pas notre responsable ou la personne qui suit notre dossier, notre délégué d'ailleurs, il parle comme ça. Et puis la deuxième chose, nous sommes aujourd'hui dans une prestation de service. Partout, quasiment dans les prestations de service, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre service tutelle ou les UDAF réfléchissent à ouvrir les services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux demandes des personnes, ou en tout cas, dès qu'il y a une sollicitation, être plus près, pourquoi pas le samedi et le dimanche, on a toujours besoin de quelqu'un.
Mais pourquoi pas ?
Enfin, je pose la question. C'est...
Mais le problème, malheureusement, ne se pose pas dans ces termes-là.
D'accord.
Nous avons une enveloppe financière qui nous est allouée,
Par la puissance publique.
Par la DDETSPP, donc la préfecture et la puissance publique, et qui ne permet pas un travail ni le week-end ni en soirée.
D'accord.
Il n'est pas possible de rémunérer des professionnels sur ces moments-là.
Il y a une permanence le samedi ou le dimanche, c'est difficile, on ne peut pas faire.
Ce n'est pas possible financièrement.
Voilà. Est-ce que les mandataires privés le font, ça ? Est-ce que vous avez connaissance du comportement des mandataires privés ?
Non, sur le département de la Lozère, je ne pense pas.
Non. Vous avez des mandataires privés sur le département ?
Oui, on en a. On en a quatre, mais je ne pense pas qu'il y ait...
Qui ont l'agrément, ça est une profession qui est régulée.
Encadré, quoi. Absolument. Absolument.
On ne peut pas s'improviser mandataire judiciaire, comme on dit. Il faut quand même passer par les fourches codines des règles de la puissance publique. Là, c'est évident. Quoi.
Et en ce qui concerne le standard... En Lozère, nous avons jusqu'à 4 personnes qui répondent au téléphone.
Qui répondent au standard.
Nous considérons que la première image de l'UDAF de la Lozère, c'est le standard, c'est l'accueil.
Si l'accueil est de qualité, la plupart des difficultés sont dissipées.
En tout cas, c'est déjà un bon point pour commencer.
Je vous propose une autre promenade musicale. Allez, rendons hommage à Aznavour qui chante « Morir de amor » avec Copa y Segundo, un cubain formidable.
Sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor. Morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochece, como la flor mi amor se ofrece. No tiene valor morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor.
Frente alta y firmes pasos, he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor.
Morir de amor.
Morir de amor, como si fuese mi enfermedad, con la vida que pagar.
Si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas, adiós a aquel que me condena, que queden todos consuelo. Morir de amor, morir de amor.
Et Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, en présence de mes deux invités, M. Dominique Prévost, directeur de l'association UDAF de la Lozère et sa responsable de la communication, Léa Jaroutou. Nous parlions de ce colloque qui a eu grand succès, le premier colloque en Narbonne, et donc vous remettez cela le 14 novembre à l'espace pavillon de la République, donc espace du Conseil départemental de la Haute-Garonne. On va revenir quand même, j'insiste, pourquoi nommer ce colloque éthique ensemble, éthique au pluriel? Donc il y aurait une éthique singulière pour les professionnels des tutelles, il y aurait une éthique personnelle, une éthique institutionnelle.
C'est pas tout à fait ça l'idée qui a prévalu.
Alors, qu'est-ce qui a prévalu à... le titre Pourquoi complet, l'écrire avec au pluriel
les titres, le titre complet, c'est mandataire, acteur du social et du médico-social, deux points, éthique avec un S, ensemble. Chacun, dans son métier, a sa manière de voir et son point de vue sur une situation que vit une personne. Et on va se retrouver à un moment donné avec des points de vue tous bienveillants, se rencontrant, le point de rencontre étant la personne. Est-ce que nous sommes capables, ensemble, de voir ces différents points éthiques et d'en sortir quelque chose et de travailler ensemble pour qu'il y ait une éthique pour la personne et non plus une éthique par métier? C'est une ambition très très forte. On a bien senti lors du premier colloque une très forte volonté pour se rencontrer plus, se connaître mieux et travailler ensemble avec des liens encore plus forts. Et si c'est ça le résultat de ce colloque, c'est un pari gagné.
Alors, éthique, mais vous n'avez pas employé le terme morale. Vous auriez pu dire les morales ensemble.
Non, la morale, c'est pas pareil que l'éthique.
Alors, dites-moi, parce que que disent, si on fait de la sémantique, ce que disent les philosophes parfois, morale, mores, les mœurs, éthique, ethos, également les mœurs. Si on parle des mœurs, il y aurait une différence sociologique, il y aurait...
Pour me faire accompagner sur ce sujet-là,
alors j'ai
demandé à quelqu'un qui est à la fois philosophe et sociologue, qui intervient dans les deux colloques, vous le connaissez peut-être, c'est un certain monsieur Andrés Atenza.
Alors vous avez fait appel à lui.
Il est philosophe et sociologue. Et donc, c'est pas très élégant, mais je vais lui retourner la question. La différence entre morale et éthique.
Ah oui, je pense qu'il y en a une. Je pense qu'il y en a une, et vous avez raison, qu'il faut apporter cette différenciation sur la question de la morale et éthique. Si les deux termes font appel aux mœurs, morale en latin, mores, les mœurs, éthique en grec, ethos, qui fait appel également aux questions des mœurs. Les mœurs d'aujourd'hui ne sont pas les mœurs de hier. Cela veut dire qu'il y a une différence peut-être sociologique. Peut-être faut-il aller chercher du côté de cette différence sociologique. Il y aurait une morale du maçon, de la maîtresse de maison, par exemple, médico-social, une morale de la secrétaire, il y aurait une éthique du directeur. Vous voyez, le niveau élevé, on fait toujours appel aux hellénistes pour le niveau élevé. Est-ce que cela est satisfaisant? Non, certes. Donc la question éthique a été renvoyée, et notamment dans vos invités, si j'ai bonne souvenance, vous avez la Fédération nationale des délégués tutélaires qui a publié un très bel ouvrage, il faut le rappeler, qui devrait être dans tous les bureaux des délégués, ou en tout cas aux tutelles, avec une phrase qui est très belle, c'est « protéger ». Sans diminuer, protéger sans réduire l'autre. Ça veut dire que la question de l'éthique renvoie à la question de l'altérité. Et c'est là que se loge cette question éthique fondamentale, mais on pourrait aussi aborder, le dire à partir d'une morale, comme il y a une morale des affaires. Mais la morale des affaires, j'en conclus, pour laisser la possibilité aux auditeurs de venir nous rejoindre le 14 novembre et de s'inscrire. Madame Jarotou nous dira cela tout à l'heure. Un bon professionnel, dans sa façon d'être, dans sa façon de se positionner, dans sa posture professionnelle, il est déjà dans une posture éthique.
Mais absolument.
Un bon
absolument.
Professionnel, par nature, il a une posture éthique.
Et pour en savoir plus sur ce sujet-là, alors vous avez, j'invite tous vos auditeurs à venir le 14 novembre ou à nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de l'UDAF.
Madame Jarotou, il faut s'inscrire sur... Pareil, il faut aller sur le site...
Il faut aller sur le site udaf48.fr et sur la rubrique Éthique Ensemble, il y a un lien qui permet de s'inscrire
donc
au colloque.
Donc on s'inscrit, c'est gratuit ?
C'est gratuit.
D'accord, oui. C'est gratuit. Il y a un petit moment de convivialité, comme d'habitude, à midi ?
Il y a un moment de convivialité à midi et il y a un temps d'échange avec les animateurs en fin de journée.
Avec les professionnels.
Avec les professionnels, les intervenants.
Intervenants. Donc, deux tables rondes, M. Prévost,
absolument.
Vous avez organisé.
Comme vous le disiez, il y a une introduction avant ces deux tables rondes où à la fois l'UNAF, la FNAT, la Fédération Nationale des Associations Tutélaires, et l'UNAPI vont prendre la parole pour dire leur vision de l'éthique et les travaux qu'ils mènent au sujet de l'éthique. Et il y aura un moment, bien sûr, de la DRETS Occitanie, le directeur sera présent pour prendre la parole et nous dire ce qui se fait sur le territoire concernant l'éthique dans les métiers de la protection juridique. On a deux tables rondes. Une première, quand la personne protégée fait société, un accompagnement individuel au sein de partenariats multiples, on donne la parole au tout début à une personne protégée, de manière à ce qu'elle nous explique comment elle participe à des réunions d'usagers et qu'elle donne son avis et comment elle retranscrit également l'avis d'autres personnes. On aura des mandataires judiciaires qui prendront la parole, on a l'ARS qui sera présent, on aura un juge des contentieux du tribunal de Toulouse. Ça, c'est la table ronde du matin. On laisse de larges temps d'échange à la suite de chaque table ronde. On a eu plus d'une heure d'échange à Narbonne le matin. La table ronde de l'après-midi, les acteurs de l'éthique, c'est une table ronde que vous introduisez, Monsieur Atenza. On donne tout de suite la parole à des personnes protégées qui vont pouvoir aussi nous dire quel est leur point de vue et ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils perçoivent leurs mesures de protection, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir évoluer. On aura trois mandataires, qui vont nous donner des points de vue croisés et des expériences de dilemmes éthiques qu'ils ont eus. Et à cette occasion, une mandataire de l'UDAF de la Lozère viendra expliquer ce qu'on vient de mettre en place, à savoir des espaces de réflexion éthique interassociatifs pour toute la Lozère.
Merci de votre présentation sur un programme riche. Vous pouvez accueillir quasiment 250 personnes sur le pavillon.
Oui, on peut monter plus haut.
Dans les bonnes conditions.
Dans des bonnes conditions.
Dans les bonnes conditions. On a parlé de l'UDAF, on a tout dit, ça passe très très vite et on ne s'est pas du tout ennuyé. Vous êtes les uns et les autres, Madame Jarotou, Dominique Prévost, des professionnels qui parlaient avec passion de votre métier. Et comment on devient directeur de l'UDAF ? Il y avait de la lumière, vous êtes rentré. Dites-moi.
J'ai eu la très grande chance que l'on m'appelle en me disant il y a un poste en
Lozère.
Est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'y aller ? J'ai d'abord regardé où était la Lozère parce que je ne le savais pas bien et j'invite tout le monde à le faire. Et je suis allé aux entretiens. J'ai défendu ma candidature. J'avais été directeur précédemment. J'ai fait une longue carrière à l'UNAPI.
Vous connaissez parfaitement ce secteur.
Je connais ce secteur. Je connais surtout les personnes vulnérables et je veux dédier ma vie professionnelle à ces personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est pour moi un moteur de chaque instant et de tous les matins.
Madame Jarotou, la communication, on vient comment à la communication dans une association, l'UDAF de la Lozère ?
Moi, je suis issue d'une formation en communication à la base, puis je suis partie dans le domaine bancaire qui m'a fait prendre le contre-pied justement du commercial et qui m'a guidée vers l'UDAF où j'ai été à l'accueil pendant 5 ans. Et lors de la création du poste de chargée de communication, on m'a proposé ce poste et j'ai accepté. Et ça va faire deux ans que... et je le regrette absolument pas.
C'est un beau poste, non. Il faut bien communiquer.
Très, très
intéressant. La communication, c'est toujours un malentendu. Donc, vous n'allez pas nous donner des malentendus, vous allez être très précise dans votre communication.
J'essaie de faire ça avec précision.
Merci tous les deux.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Et
merci
puis, très bon succès pour votre colloque de l'UDAF au niveau régional et la vôtre. Et très belle vie. À la Lozère, à très bientôt, chers amis, sentinelles d'humanité, à très bientôt.